vie toujours là. C'est couleur, prochaines oreilles où t'en es ça. Il bat l'enquin, il bat l'enquin. Musique si la l'enhomme, font coup tous les moments. Wapé compte secondes, moins qu'à faire la vie ou en
Haïti. Elle disait la veine est ouverte, le sang court, il a l'odeur des nuits de fête.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Cette semaine, une rediffusion dans le cadre de l'exposition à l'espace Gérard Philippe au centre-ville d'Ivry. On vous propose une promenade radiophonique qui comprend 20 extraits d'archives. Parmi ces extraits, l'interview de Paul Niedermann a été réalisée le 27 janvier, si je ne me trompe pas, 2006. Et cette rencontre va durer une heure. Je vous souhaite une bonne écoute.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bon, alors bonjour à tout le monde d'abord. Moi, je m'appelle Paul Niedermann. Vous pouvez m'appeler Paul, c'est plus court. Moi, je suis né en Allemagne. Bon, là, vous avez une carte de France, d'accord? Et vous avez... Donc là, c'est Strasbourg, voyez-vous? Et moi, je suis né de ce côté-là du Rhin, de l'autre côté, donc tout près de la frontière française, mais en Allemagne. Alors, bon, on vous a parlé des nazis, bien sûr. Vous avez entendu parler. En Allemagne, il y avait un régime totalitaire, c'est-à-dire un régime de dictature. Je vais vous parler un tout petit peu de la vie d'un enfant juif en Allemagne nazie. Parce que c'était très particulier, je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Et je veux simplement dire, avant tout, c'est qu'en dès 1940, c'est-à-dire très très tôt dans la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont voulu savoir comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des juifs. Vous savez que les nazis étaient des racistes et dès leur arrivée au pouvoir, ils s'en sont pris aux juifs parce que bon, c'était pour eux une façon d'éveiller l'intérêt de tout le monde. Ils sont attaqués aux juifs. Mais à cette époque-là, si tôt, bon, moi je suis, j'avais 6 ans quand les nazis sont arrivés au gouvernement, au pouvoir. Et j'ai déjà des souvenirs, des discussions qu'il y avait à la maison, mais je vous parlerai tout à l'heure un petit peu de la vie d'un enfant juif en Allemagne. Mais dès 1940, ils ont choisi 3 provinces qui étaient situées là dans le sud-ouest de l'Allemagne, là tout à fait ici, parce qu'il y avait une frontière commune entre l'Allemagne et la France. Et pour faire un essai, pour savoir comment est-ce qu'on s'y prend, ils ont arrêté tous les juifs de ces 3 provinces, c'est-à-dire 6500 personnes. Je ne sais pas si vous pouvez... C'est une petite ville. Hein? 6500 personnes, c'est une petite ville. Et ils les ont déportés, arrêtés, déportés. Bon, on a tout perdu, la maison, nos affaires, tout. Hein? On nous a déportés et on a fait un voyage qui a duré 3 jours et 4 nuits dans des trains, sans manger, sans boire, sans pouvoir se laver, sans toilette, sans rien. On est parti donc de là, et ils nous ont emmenés à travers toute la France, jusque dans la région des Pyrénées, c'est-à-dire à la limite de l'Espagne, à côté de la ville de Pau, où il y avait un camp de concentration. Tout le monde a entendu parler de ça, je suppose, hein, où on enfermait des gens derrière des barbelés. Eh ben moi, j'avais 12 ans. J'étais pas beaucoup plus âgé que vous. Hein. J'avais 12 ans quand on nous a emmenés là-dedans. On a séparé les femmes des hommes, hein, donc mes parents étaient séparés, Moi, comme j'étais, moi, j'avais un frère qui était plus jeune que moi de 2 ans et demi, ben, on l'a mis avec ma mère, et moi, j'étais avec mon père. Et les familles se sont plus revues. C'était terminé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, comme ça, imaginer ce que ça représente pour un enfant de 12 ans d'être enfermé derrière des barbelés et ma mère très loin, pas moyen de la revoir, mon frère non plus. Et j'étais avec mon père qui était un monsieur un peu. Il était très calme, très renfermé, il parlait pas beaucoup. Et j'étais avec mon père au milieu de tous les autres hommes. Alors, juste 2 mots. Qu'est-ce que c'est que la vie dans un camp de concentration? D'abord, la première des choses, la nourriture. Une fois par jour, il y avait ce qu'on a appelé une soupe. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça plutôt de l'eau de vaisselle, vous voyez. Bon, c'était de l'eau tiède, parce que oui, évidemment, dans ce camp, il faut que je vous le dise, quand nous, on est arrivés, il y avait déjà d'autres gens qui avaient été internés. Et ce camp, allez, il faut que je vous dise, il faisait 2 km de longueur et 250 mètres de largeur. C'était pas très grand. Quand on est arrivé, on était 65 000 personnes. Des baraques qui avaient été construites pour héberger, je ne sais pas moi, 30 personnes, 40 personnes. On était 200 là-dedans. Alors, cette nourriture, donc la soupe, on avait ça une fois par jour. Bon, le temps qu'elle arrive jusqu'à notre bloc où on était interné, ben, c'était tiède. Et c'était de l'eau. Et dedans, on trouvait quelquefois, quand on avait de la chance, quelques navets. Des navets, bon, c'est un légume, quoi. C'est comme des carottes, mais c'est blanc. Et c'est, moi, je ne peux plus manger un navet, je ne peux plus. Hein. Je sens un navet dans un pot-au-feu, je cours. Hein, tellement on nous en a fait manger, c'était épouvantable. Hein. Mais il n'y en avait pas beaucoup, ça nageait dans l'eau. Quelquefois un pois chiche, vous connaissez les pois chiches. Bon, il y en avait quelquefois quand on avait de la chance. On avait 2 fois par semaine 180 grammes de pain. C'est-à-dire, je suis un bout comme ça, un temps coupé dans une miche. Mais il était très très mauvais. Moi, j'ai toujours, quand je pense aujourd'hui à ce pain, j'ai l'impression que c'était fait avec de la sciure de bois, hein, tellement c'était mauvais. Mais bon, c'est tout ce qu'il y avait. Je veux dire, j'ai été interné pendant 2 ans. D'abord, j'étais dans ce premier camp, après on nous en a mis dans un autre, parce qu'il y a eu une épidémie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une épidémie? Une maladie contagieuse. Hein. Je vais simplement vous dire, quand on est, nous, de mon coin, on était donc, comme je l'ai dit, 6500 personnes. Le premier hiver, il a fait très très froid. Le premier hiver, il y en a 1500 qui sont morts. On ne les a pas tués là. Non, mais on les a laissés mourir. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien à manger. Des gens qui étaient vieux, malades, des bébés. 1500 sont morts le premier hiver. Dans ce camp, on a fait, après, bien, bien longtemps après, on a fait une espèce de cimetière pour que ça soit un lieu de souvenir. Enfin, on peut compter les tombes, tous ceux qui sont originaires de mon coin. Hein, je vous dis, il y en a 1500 qui sont restés là, partie de ma famille aussi. Bon, et bien sûr, les épidémies ont tué beaucoup de gens. Puis alors, bon, la nourriture, je vous ai dit, ah, j'ai jamais vu ni de viande, ni de légumes frais, ni de salade, ni de fruits, ni de lait, rien. Hein. Il y avait cette soupe hein, qu'on avait une fois par jour et le bout de pain. Point. Au bout de quelques mois, les conditions de vie dans ce camp étaient absolument terrifiantes. Et avec les épidémies, il y avait notamment une épidémie de dysenterie. Vous imaginez de ce que ça peut donner. On ne pouvait pas se laver, il n'y avait rien, hein, il n'y avait absolument rien là-dedans. Alors ils ont réparti les gens qui étaient internés là dans d'autres camps. Et on a été transférés et j'ai encore été interné dans un deuxième camp qui s'appelait le camp de Rivesaltes, qui était plus de ce côté-là, mais qui était là, toujours près de la frontière espagnole, dans les Pyrénées, là-bas en bas. Hein. Et là, j'étais encore... Alors, le régime était le même, les conditions de vie étaient exactement les mêmes. Et, si vous voulez, allez, il faut que je dise une date. En 1942, les nazis avaient décidé de construire les camps d'extermination. On vous en a parlé, d'Auschwitz. Et on a simplement les gens qui étaient déjà enfermés dans des camps comme en France. On n'avait pas besoin de les chercher pour les arrêter. Hein. Alors on a dit, bon, aujourd'hui vous en envoyez 100 000, demain vous en envoyez 80 000. Et on les a envoyés tous dans l'Est, donc dans les camps dits d'extermination, où on a tué les gens. On vous a parlé des chambres à gaz, des fours crématoires, etc. Bon, ça, on les a envoyés là-bas. Et moi, pour ma part, j'ai perdu toute ma famille, tout ce qui restait, parce que des nôtres, si vous voulez, des 6500 qui ont été déportés avec moi, il n'y a pas eu un seul adulte survivant. Ils sont tous morts. On les a tous assassinés. Alors, comment ça se fait que moi, je suis encore là? Alors, c'est une autre histoire. Dans ce camp de Rivesaltes où j'ai été là, près de Perpignan, il y avait une organisation juive clandestine. Parce que, bon, c'était pas autorisé, hein. Ils avaient introduit dans ce camp de concentration 4 jeunes femmes. Bon, il y en a une qui disait qu'elle était infirmière, l'autre, elle était institutrice, la troisième était assistante sociale, peu importe. Ils avaient des trucs qui... C'était pas vrai, hein. C'était juste pour qu'on ne les remarque pas. Et ces 4 jeunes femmes avaient comme tâche, comme travail, de sauver le maximum d'enfants possible. Parce que cette organisation s'occupait... Bon, aujourd'hui, on appelle ça des assistantes sociales, enfin des travailleurs sociaux, on dit, qui s'occupent d'enfance. Les adultes, on ne pouvait pas les faire évader. Ce n'était pas possible parce que les camps étaient beaucoup trop bien gardés. Par contre, pour des enfants, il y avait quelquefois des possibilités. Alors, ces jeunes femmes ont organisé des petits groupes. On n'était jamais plus de 5 ou 6, pas plus. Et ils ont organisé ça pour qu'à des certains moments, on avait rendez-vous auprès du fil de fer barbelé, et quand le moment était bon, on nous attendait de l'autre côté avec une camionnette. Quelqu'un coupait le fil de fer barbelé à ras du sol, et il fallait à 4 pattes aller en dessous, très 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 vite, et grimper dans la camionnette. Bien sûr, il y avait des gardes armés, bien sûr. Alors, je n'ai pas réalisé tout de suite, quand je me suis évadé de là, hein, quand j'ai pu sortir de là, j'ai bien vu un garde qui était 200 mètres plus loin avec son fusil, mais c'était très curieux. Il regardait de l'autre côté. Hein. Alors, bon, après, quand j'étais un peu plus grand, j'ai posé des questions. Et alors, on m'a expliqué que ces gardes, bon, qui gagnaient pas beaucoup d'argent, leur solde, c'était pas grand, ils se faisaient des sous, parce qu'on leur, comme on dit, on leur graissait la patte, on leur donnait de l'argent, et moyennant quoi, ils se tournaient de l'autre côté et regardaient ailleurs. C'est comme ça qu'on a pu s'évader. Ils avaient touché de l'argent, c'était bien pour eux, ils étaient contents. Alors ils regardaient ailleurs. Alors ils nous laissaient passer en dessous. Alors, si vous voulez, je suis arrivé d'abord dans une espèce de... Bon, on appelle ça une maison d'enfants. C'était une maison qui avait été louée par cette organisation clandestine juive qui avait infiltré les jeunes femmes au camp, qui les avait fait rentrer. Ils avaient loué une maison parce que, vous imaginez bien, quand on sortait de là, d'abord on était... Ah, allez, je vais vous dire un chiffre. Je mesurais 1m60. Qui est-ce qui mesure 1m60? Vous? Non. Voilà, mets-toi debout, tiens. Tu sais combien tu pèses?
Ouais.
Combien tu pèses?
45.
Ouais. Je pesais 32 kilos. Si on a le temps tout à l'heure, je donnerai une photo, je vous montrerai de quoi j'avais l'air. C'est incroyable. J'étais comme un fil, hein. C'était... Bah oui, ça faisait 2 ans que je mangeais plus. J'avais rien à manger. Bon, on était tous malades. J'ai jamais rien eu, aucune nourriture. Aucune nourriture avec des vitamines. Jamais de salade, jamais de fruits, jamais de lait. Jamais de vitamines, j'étais malade comme tout, hein. Et puis, bon, vraiment très affaibli. Mais en plus, dans ces camps, il y avait plein de vermine. La vermine, des poux, des puces, des punaises, affreux. Hein. Et ben, vous savez, aujourd'hui encore, quand je vois un chien qui se gratte parce qu'il a une puce, moi je cours, hein, et vous ne me rattrapez pas. Hein. C'est quelque chose, c'est un cauchemar, ça, hein, la vermine. On était donc, les haillons qu'on avait sur nous, on n'avait plus de vêtements non plus, puisque au bout de 2 ans de camp, d'internement, ben, tous nos vêtements se partaient en lambeaux, c'était rien, hein. Alors, quand on est arrivé, d'abord, on nous a fait ce qu'on appelle aujourd'hui si joliment un check-up. On nous a médicalement... Il y a un médecin qui nous a ausculté pour voir ce qu'on avait, ce qu'il n'avait pas. Et on nous a pris nos vêtements, ou le peu de linge qu'on pouvait encore avoir, on nous les a pris pour les brûler. Parce que tout ça, c'était plein de poux, de puces, de punaises. Alors, on a tout brûlé. Et alors, dans cet organisme, ils avaient, bien sûr, des vêtements qui venaient de dons. Vous savez, les gens avaient des vêtements dont ils ne se servaient plus, ou que les enfants avaient grandi, alors on donnait des vêtements. C'était propre, c'était pas neuf, mais très propre. On avait, donc on nous a rhabillés. Et on nous a donné à manger. Je veux dire, la cuisinière dans cette première cachette où j'étais là, elle était italienne. Vous savez ce qu'elle faisait vraiment bien? C'est les pâtes, la pasta, ça c'était. Hein. Le premier soir, elle est venue avec un grand faitout comme ça en aluminium, plein de pâtes. Bon, il y avait aussi de la viande. Hein. Ça faisait 2 ans que je n'avais jamais vu de pâtes, ni de pommes de terre, ni de riz, ni rien du tout. Hein. Cette flotte avec l'eau, avec les navets ou les pois chiches, c'est tout ce qu'il y a eu. Hein. Ben, je me suis jeté sur ces pâtes, je vais vous dire, j'en ai repris 10 fois. J'ai eu un ventre comme ça. Ils n'auraient pas dû me laisser faire, parce que bon, ça nous a fait du mal, hein, parce qu'on ne doit pas manger comme ça, comme des fous. Mais c'est les gens qui s'occupaient de nous, ils n'avaient pas du tout le cœur à nous laisser avoir faim, hein, c'était pas pensable. Oh, j'ai mangé, vous ne pouvez pas imaginer. Bon, comme je ne peux pas rentrer dans tous les détails, à la fin de l'année 42, donc le sud de la France était la France dite libre, hein, bon, et en haut, c'était occupé par les nazis. Mais comme ils étaient en guerre avec tout le monde, ils avaient besoin de nourriture, de toutes sortes de choses. Donc, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Dans les pays occupés, simple. Hein. Alors, ils ont occupé toute la France. En novembre 42, ils ont occupé tout le pays. Et puis, ils ont tout pris, tout ce qu'ils ont trouvé. Vous imaginez bien qu'à partir de ce moment-là, un enfant juif ne pouvait plus du tout vivre ouvertement. C'était pas possible. Parce que dès qu'il trouvait un juif, eh ben, il le prenait pour le déporter, pour le tuer à Auschwitz. On est gazé là-bas. Alors, a commencé pour moi, jusqu'à la fin de la guerre, une... Enfin, ouais, des marches, bon, j'ai été partout, dans tout le sud de la France, d'une cachette à l'autre. Parce que les cachettes, très souvent, elles étaient dénoncées, ou comme les Allemands étaient partout, les nazis, ils étaient partout. Alors, ils trouvaient des cachettes, ils déportaient les enfants. Alors, on était obligés de changer d'endroit très, 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 très souvent. Et bon, je ne peux même pas vous les nommer tous parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était vraiment, franchement, le sud de la France, j'ai plus besoin d'une carte pour me retrouver. Je connais tous les petits chemins, hein. J'ai été vraiment partout. Je vais simplement vous parler d'une des cachettes où j'ai été, ce n'était pas la dernière, mais une des dernières, parce que ces jours-ci, on en parle beaucoup. Est-ce que vous avez entendu parler de la maison d'enfants d'Izieux? Non. Bon, il y avait des gens que je connaissais bien, bon, depuis ma sortie du camp, qui avaient trouvé, dès 1943, une cachette qu'ils pensaient être très très sûre. Cette cachette, elle était... Vous voyez, bon, là, la France, moi, je vous ai montré. Vous avez la ville de Lyon, qui est par là. Alors, il y avait, à l'est de Lyon, ici, au pied du Jura, dans les montagnes, il y avait une... Ils avaient trouvé une maison dans un hameau. Un hameau, vous savez, c'est plus petit qu'un village. Il y avait 3 maisons. Et une de ces maisons, elle était inoccupée. Et cette organisation clandestine dont j'ai déjà parlé, ils l'ont louée. Et ils ont fait là une cachette pour des enfants juifs dont les parents n'avaient pas trouvé. Alors, quelquefois, les enfants restaient longtemps, quelquefois moins longtemps. Ça dépendait des parents, s'ils étaient toujours vivants ou s'ils avaient trouvé une meilleure cachette, etc. Et puis, les gens qui dirigeaient cette cachette, il y avait des adultes, hein, il y avait 10 dizaines d'adultes. Moi, je les connaissais bien parce que j'avais déjà été caché chez eux avant, à la sortie du camp. Et ils m'ont demandé de venir les retrouver parce que, imaginez-vous, avec cette maison, il y avait un grand jardin. Et ce jardin, il était complètement en friche, enfin, il n'était pas cultivé. Et quand on a 40 ou 50 enfants et 10 adultes à mourir, ben vous pensez bien, il faut des légumes, il faut de la salade, il faut des pommes de terre, il faut manger. Et à l'époque, en France, il n'y avait pas grand-chose à manger parce que les Allemands, ils prenaient tout. Alors, ils m'ont demandé, avec un copain que j'avais à l'époque, alors, attendez, maintenant, en attendant, moi, j'avais grandi, hein, moi, j'avais 16 ans, j'avais presque 16 ans. Alors, ils m'ont demandé de venir là-bas pour cultiver ce jardin. Et c'est ce qu'on a fait. On a bêché toute la terre, on a semé des légumes, etc. On a fait ça. Mais alors, un jour, un gendarme français, un gendarme, un gentil, il est venu et il a dit au directeur de la cachette, il a dit, dis donc, il y en a un qui est là-dedans. Moi, je dis, j'avais 16 ans. Et J'étais toujours pas très gros, hein, mais j'avais grandi comme une asperge. Alors il m'a dit, il est beaucoup trop grand, il va attirer l'attention des Allemands ou des collaborateurs ou de la milice, hein, la police de Vichy, enfin, du gouvernement de la France dite libre. Il faut le faire partir parce que c'est dangereux. Eh bien, dans la minute, j'ai été obligé, j'avais rien, j'avais absolument rien, parce que j'avais sur le dos, c'est tout, prendre mon sac à dos et j'étais obligé de partir. Alors on m'a fait partir ailleurs, dans d'autres cachettes, et comme ça, j'ai été caché un peu partout jusqu'à la fin de la guerre. Bon, la fin de la guerre, c'était en 45, et à ce moment-là, les choses sont, bon, pas redevenues normales d'un coup, c'est pas vrai, hein. Mais il n'y avait plus de danger. L'Allemagne avait été battue, les Allemands étaient partis, et on pouvait de nouveau commencer à vivre. Alors, j'avais grandi, et on avait besoin de toutes les bonnes volontés, je vais vous dire pourquoi. Il restait un certain nombre d'enfants juifs qui avaient survécu, tout comme moi, mais qui étaient plus jeunes que moi, soit dans des cachettes, soit dans des familles, des maisons d'enfants. Il y a aussi des enfants qui ressortaient des camps, que les nazis n'ont pas eu le temps de tuer, qui arrivaient. Et c'est, tous ces enfants n'avaient plus de famille, ils n'avaient plus de parents, les parents avaient été déportés, tués. Alors il fallait bien s'en occuper. Et comme on attend, bon, j'avais grandi, j'étais devenu un jeune adulte, comme on dit, et comme on a demandé à toutes les de bonnes volontés, tous ceux qui voulaient bien, je me suis moi-même occupé ensuite pendant 3 ans d'enfants qui étaient plus jeunes que moi et qui n'avaient plus de famille. Il fallait bien le faire, hein. Et puis bon, il est arrivé un moment où il n'y avait plus tellement d'enfants, où c'était plus urgent. Et on m'a dit, maintenant, c'est bien ce que tu as fait, c'est gentil, mais maintenant tu te débrouilles. Bon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, plus tard, je me suis marié, j'ai eu moi-même une famille. Et je pense que aujourd'hui, j'ai à peu près, comme je dis toujours, entre guillemets, digéré cette période de ma vie. La preuve, je peux vous en parler librement et facilement, et éventuellement répondre à vos questions. Juste pour terminer, je vais encore dire que cette dernière cachette dont j'ai parlé, là, Izieux, où j'ai fait le jardin, un peu plus tard, après mon départ, cette cachette a été dénoncée par 2 collaborateurs. Les nazis sont arrivés à l'improviste un matin, ils ont pris 44 enfants, la plus jeune avait 2 ans, et le plus âgé, c'était mon ami Théo, qui en avait 16. Ils ont ramassé 44 enfants et 10 adultes. Ils les ont déportés. Il n'y a pas eu de survivants. Ils ont tous été tués. Alors, si vous voulez, pendant toute mon enfance et pendant toute mon adolescence, j'ai, par des concours de circonstances, par des parce que ça s'est arrivé comme ça. Hein, j'aime pas beaucoup le mot hasard, mais on peut aussi appeler ça hasard. J'ai échappé, je suis passé à travers les gouttes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici et je peux vous en parler, parce que j'ai compris, il y a maintenant 10 ou 15 ans, j'ai compris quelque chose qui pour moi est très important. Si nous, les témoins de l'époque, ceux qui ont vécu ça, nous sommes les derniers, après nous, vous savez, moi j'ai 77 ans, hein, après nous, il n'y a plus personne. Il ne restera plus que des livres. Et un livre ne peut jamais répondre à des questions personnelles. Si vous avez des questions à poser, le livre, il est déjà écrit, il ne peut pas. Moi, je peux répondre. Alors, j'ai compris que nous avons, nous, une espèce d'obligation de raconter ce que nous avons vécu, des choses qui ont été possibles, de vous les raconter à vous, parce que vous, vous êtes la génération suivante. Vous venez après. Et si vous, on ne vous le dit pas, et si on ne vous l'explique pas, il n'y a qu'à écouter ce qu'on peut entendre à la radio ou à la télévision, comme, je sais pas, les déclarations de M. Le Pen, de M. Gollmich, enfin, ces gens de l'extrême droite, il n'y a qu'à les écouter pour savoir que, bon, ben, c'est pas mort, hein. Les idées nazies, c'est pas mort, c'est pas enterré, il y en a encore. Le racisme, ça existe tous les jours. Et si vous, les jeunes, vous n'êtes pas sensibles à ça, si vous ouvrez pas grand les yeux et les oreilles, et si vous vous battez pas quand vous pourrez contre ça, ben, tout ça, ça sera arrivé pour rien et on aura souffert pour rien. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que nous, les témoins, on vous en parle.
Je vais être plus courte et j'ai eu un parcours moins dramatique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été arrêtée avec ma mère à Tours, J'ai été dans une prison, j'avais 4 ans et demi, pas loin de 5 ans. Et j'étais avec ma mère donc dans cette prison. Et de la prison de Tours, on a été envoyé dans un camp qui s'appelait le camp de la Lande, dans un petit village. Et dans ce camp, il n'y avait que des enfants et leur mère. Et donc moi, je suis restée quelques temps, pas très longtemps, je crois 2 mois. Et à l'époque, donc, j'avais un oncle qui habitait Béziers et qui m'a fait sortir de ce camp, c'est-à-dire qu'il connaissait une dentiste allemande qui était dentiste à l'époque en 1942 à Béziers. Elle est venue me chercher dans le camp. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai pu sortir. Je crois que j'ai été le seul enfant qu'on a pu sortir. Et donc moi, j'ai eu un sentiment, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. J'ai abandonné ma mère, c'est-à-dire que ma mère m'a laissé partir. Elle s'est séparée de moi pour me sauver. Mais moi, je l'ai vécu autrement, je l'ai vécu comme un abandon. Voilà. Et donc, quand je suis sortie de ce camp, je suis arrivée à Béziers, donc dans le sud. Et l'oncle et la tante ne pouvaient pas s'occuper de moi parce qu'ils étaient déjà, ils commençaient à être un peu âgés. Ils m'ont envoyée en Lozère, voilà. Dans cette région, c'était les montagnes. Donc j'ai été réfugiée chez une dame catholique qui m'envoyait à l'église, qui m'envoyait partout. J'avais une vie normale, comme tout le monde. Alors je suis restée quelques mois là, en Auvergne. Et après, de l'Auvergne, comme c'était dangereux que les Allemands arrivaient, ça devait être en 1943... que les Allemands arrivaient, mon oncle m'a récupérée et m'a envoyée ailleurs. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas considérée comme enfant cachée, mais en réalité, j'étais une enfant cachée, puisque je ne vivais pas comme tout le monde. J'allais plus à l'école, alors que quand j'avais 4 ans et demi, j'allais à la maternelle à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis. Donc j'ai eu un parcours un petit peu moins dramatique, mais triste quand même, parce que j'ai perdu mes deux parents. Je me suis retrouvée à l'âge de 5 ans, orpheline. Vous savez ce que ça veut dire, ça, le monde orphelin. Donc j'étais toute seule.
Elle a sacrifié sa vie pour vous,
votre mère ? Non, elle n'a pas sacrifié sa vie pour moi. Elle m'a laissé partir. Elle est restée dans ce camp et ensuite, elle a été déportée à Auschwitz. Elle n'a pas sacrifié sa vie, elle m'a laissé partir. Elle s'est séparée de moi parce qu'elle savait qu'elle me sauvait la vie. Si elle m'avait gardée avec elle, j'aurais été déportée, j'aurais été à Auschwitz.
Mais j'ai pas compris, c'était des
barbelés
derrière.
Barbelés. Des fils de fer barbelés, c'est du fil de fer avec des piquants. On peut pas passer dedans parce qu'on s'arrache la peau. Hein, alors c'est des rouleaux de fil de fer, mais avec des piquants.
Quand les nazis ont pris votre cachette où vous aviez été transféré, c'était pendant la guerre ?
Ça se passe entre 1939 et 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est dans cette période-là.
Votre petit frère aussi, il est mort ?
Oui, il est mort aujourd'hui. Mais mon petit frère, il a été sauvé par une autre filière, pas avec moi. Mais bon, ça nous mène trop loin, mais il est décédé depuis aussi.
Vous n'avez pas eu peur quand vous êtes sauvé ?
Mais écoute, ma fille, on a eu peur tous les jours. 24 heures par jour, on a eu peur. On dormait avec la peur, on se réveillait avec la peur. La mort, elle était partout. Bien sûr qu'on a peur. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut fêter dans un camp ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un camp ? Personne ne pouvait te faire un cadeau, il n'y avait rien. On avait froid, on avait faim, on était malade. J'ai même pas pensé à mon anniversaire, j'y pensais pas. C'était un jour comme les autres. Tu sais, je vais te dire, pendant toute cette époque, on avait la toute première de nos préoccupations, c'était de survivre. Et tu apprends ça très très jeune. Hein. Même, bon, j'avais 12 ans quand je suis arrivé au camp. Enfin, presque 13. Hein. Quand je suis arrivé dans le premier camp, puis le deuxième camp, j'étais interné pratiquement 2 ans. Et après, c'était la fuite toujours d'une cachette à l'autre. Dans la peur, elle ne te quitte pas. Et moi, il m'a fallu des années. Il y a maintenant, grosso modo, 16 ou 17 ans que je suis capable de parler de tout ça, seulement de pouvoir en parler, tellement je fais des cauchemars pendant des années. Il y a une raison. Aujourd'hui, je peux expliquer pourquoi je peux en parler, que j'ai digéré. Je peux l'expliquer. Mais aujourd'hui, ça va. J'ai plus peur et je ne fais plus de cauchemars. Mais il m'a fallu très, très longtemps.
Est-ce que vous travaillez dans les camps de concentration ?
Non, dans les camps où on était... Le travail le plus important, c'était de chasser les poux, les punaises et les rats. Hein, il y avait beaucoup de rats. Non, là, on ne nous a pas fait travailler. On faisait rien. On avait faim, nuit et jour. Ça non plus, je ne peux pas le décrire. Est-ce que vous pouvez... Tout le monde a faim. Hein, bah bon, on va manger un bout de pain et puis ça va. Hein. Mais là, pendant 2 ans, vous avez faim, nuit et jour. La nuit, vous vous réveillez parce que votre estomac, il fait des nœuds parce qu'il n'y a rien dedans. Je ne peux pas vous décrire ça. C'est une chose... Je n'ai jamais trouvé les mots pour ça. Oui ? Dormir ?
Oui.
Bon, tu sais, quand ils éteignaient les lumières qu'il y avait dans le camp, là, le soir, quoi, il n'y avait pas autre chose à faire. Hein. Fallait essayer de dormir. Bon, si on dormait tant soit peu, ben, on arrive à reprendre un peu de force en dormant. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Quand ça dure pendant 2 ans, comme pour moi, ben, à la sortie, on n'est pas en très bon état. Hein. Non, à peu près vers la mi-journée, vers midi à peu près.
Ah,
mais tu sais, comme ils arrêtaient, ils avaient ce qu'on appelle une roulotte, comme les militaires, tu sais, sur un camion, quoi. Alors ils venaient avec une grosse bassine, et tout le monde devait aller à l'entrée du camp, enfin de notre bloc, avec n'importe quoi pour manger. En général, on finissait par avoir des vieilles boîtes de conserve qu'on récupérait derrière les baraques de cuisine. Et on allait là-bas, et on nous mettait notre truc dedans. Et puis, il fallait manger comme on pouvait. Quand on a été déporté d'Allemagne, on ne pouvait rien emporter, rien. Ben, il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas de couvert, il n'y avait rien. Alors bon, c'est pour ça que je vous ai dit, la chose la plus dramatique, c'est le souci de la survie de tous les jours.
Est-ce que vous avez vu des noirs ?
Bon, c'est une bonne question. C'est dur de parler de ça le matin, mais tu as raison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des nôtres, là, des 6500 du pays de Bade où je suis originaire, il y en a 1500 qui sont morts le premier hiver au camp de Gurs. Bien sûr que j'ai vu les morts. Tu sais, il fallait sortir tous les matins les cadavres, il fallait les emmener à l'entrée du bloc, ils passaient un camion, puis hop, ils les jetaient dessus, puis ils les emmenaient, mettaient ça. On disait le cimetière, mais en fait, c'était surtout une fosse commune. Hein. Et ben, bien sûr, il fallait les sortir. Tous les matins, il y avait des cadavres.
Deux ans dans cette prison,
et vous n'avez
pas tué direct.
Ben, tu vois, ça, c'est une question, je dirais, essentielle, importante. Tout à fait au début que je vous ai raconté mon histoire, je vous ai dit que les nazis étaient, depuis le début, ils étaient racistes. Ça veut dire quoi ? Ils cherchaient quelque part une minorité, des gens qui n'étaient pas les plus nombreux, hein, puis ils disaient, ben bon, ben ça, tout est de leur faute. Hein, que si tu veux, bon là on rentre dans des considérations beaucoup plus générales. Quand il y a des gouvernements, des dictatures comme ça, hein, des gens qui doivent être des violents, il leur faut toujours, est-ce que vous connaissez ce mot qu'on dit un bouc émissaire ? Est-ce que vous connaissez le mot ? Ils cherchent une minorité et ils disent, ah ben c'est de leur faute, hein, c'est eux les fautifs. Comme ça fait passer beaucoup de choses. Alors les nazis avaient commencé par dire, puisque bon... En Allemagne, déjà, on était une minorité, on n'était pas nombreux. Hein. Mais ils disent, oh, c'est la faute des Juifs, il faut les tuer. Alors évidemment, ils n'ont pas réussi à tuer tout le monde, ils n'ont pas réussi. Hein. Mais ils en ont quand même tué 6 millions. Alors si tu veux, moi, tous les matins, je me réveille et je dis, merci, je suis toujours là. Chaque jour, c'est durable. Hein. Chaque jour, c'est un jour en plus. Je devrais pas être là. Je devrais être mort.
Les soldats de guerre, eux, ils étaient racistes ou...
Oh, bah, bien sûr.
Les
soldats
juste pour...
Non, mais non. Le racisme a été... c'était la doctrine, c'était l'idée des nazis. C'était basé sur cette violence et sur ce racisme. Hein. C'était basé là-dessus. Et bon, dans les militaires, dans l'armée... Bon, il y avait des gens qui étaient simplement... Ils étaient là parce qu'on les a appelés au service militaire. Hein. Ils étaient peut-être pas nazis, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ils sont presque tous morts, donc on ne sait plus. Il y avait beaucoup de... Bon, il y en avait qui étaient des vrais nazis, mais aussi, ne pas oublier, beaucoup de gens, simplement, ils n'ont rien fait parce qu'ils n'avaient pas le courage de s'y opposer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous êtes la jeune génération. Quand vous aurez quelques années de plus, vous serez là pour que ça n'arrive plus. Il faut avoir du courage pour ça. Il faut se battre. Pourquoi croyez-vous que moi, depuis maintenant 16 ans, Je vais dans des écoles, aussi bien en France qu'en Allemagne, même en Amérique. Bon, moi, je parle trois langues, c'est une facilité. Voilà. Je peux m'exprimer. Hein. Je fais ça depuis 16 ans. Je parle à des jeunes, comme vous, parce que je sais qu'après nous, bientôt, on ne sera plus là. Hein. C'est évident, c'est naturel. Mais après, c'est à vous. Et si vous ne faites pas attention, ben, ça va recommencer.
Est-ce que vous avez vu Hitler ?
J'ai vu Hitler quand j'avais à peu près ton âge. Parce qu'il est venu dans la ville où je vivais, à Karlsruhe, là, sur le bord du Rhin. Il est venu, comme dans beaucoup d'autres villes allemandes. Attends. Il est venu faire un discours. Mais ce type, c'était un fou. Hein. Il était fou. Hein. Il hurlait, il écumait. Et moi, j'étais un petit garçon, j'avais ton âge. Et il parlait, la plus grande salle de ma ville, c'était un énorme marché couvert. Et moi, j'ai rien dit à mes parents. J'étais idiot, hein. Je suis rentré par une petite porte derrière et je voulais écouter Hitler. Mais je peux te dire qu'il m'a fait peur, hein. Il m'a vraiment fait peur. Un type, il hurlait, il écumait, il était là, il hurlait contre les Juifs. Et moi, j'étais au fond, j'écoutais ça. Je suis rentré à la maison, je tremblais de partout.
Il a dit quoi ?
Comment ?
Il a dit quoi ?
Ben, ses discours, comme tout, il hurlait, et tout était de la faute des Juifs, et que l'Allemagne allait conquérir le monde. Et bon, c'était les histoires d'Hitler tout le temps.
Est-ce que vous avez des tatouages ?
Non, dans les camps en France, ils n'ont pas pris la peine de tatouer les gens, puisque on était destinés à repartir vers Auschwitz, vers les camps d'extermination. Là-bas, ils tatouaient les gens, ceux qui travaillaient. Par exemple, je veux te dire, je sais par un témoin qui est revenu d'Auschwitz, qui était là, il a survécu, qui connaissait ma mère. Ma mère est arrivée avec un des premiers transports, de France, hein, via Drancy, puisqu'on les a emmenés d'abord à Drancy, près de Paris, et puis a envoyé à Auschwitz. Ma mère, elle a été, comme il disait, sélectionnée à l'arrivée. Pourquoi ? Elle était déjà internée depuis 2 ans. Elle était malade, elle était amaigrie. Elle n'avait pas la force de travailler, elle ne pouvait pas. Elle dit, bon, c'est là, on la tue tout de suite. Alors, ils n'ont pas eu le temps de la tatouer. Hein. Elle est descendue du wagon, ils l'ont emmenée à la chambre à gaz et ils l'ont tuée.
Qui voulait vous emmener dans des chambres à gaz ?
Non, attends, il ne faut pas mélanger. Les camps en France, à une exception près en Alsace, mais les camps en France n'étaient pas des camps d'extermination où on tuait des gens. On les a simplement enfermés derrière les barbelés et gardés. Et quand les camps d'extermination ont été construits et fonctionnés, c'est-à-dire à partir de l'été 42, on a envoyé, tu sais, ceux qui étaient dans les camps en France. La police n'avait pas besoin de les chercher, savait qu'ils étaient là. Alors les Allemands, ils téléphonaient de Berlin à Paris, puis de Paris là-bas, et disaient, aujourd'hui, il faut en envoyer 80 000. Allez hop! On les a envoyés. Et on les a envoyés là-bas pour les tuer. C'est comme ça que ça fonctionnait. On ne les a pas tués sciemment en France. Il y avait un seul camp d'extermination en France, sur le même modèle. C'est en Alsace, le Struthof. On le connaît, on peut visiter. C'est en Alsace. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, les Allemands, les nazis, avaient annexé l'Alsace. L'Alsace n'était plus la France. C'était l'Allemagne. C'est pour ça que là-bas, c'était un tout petit peu différent.
Quand, par exemple, les gens étaient malades, les Allemands, ils ne les soignaient pas, mais...
Absolument pas.
Ils ne les soignaient pas, mais ils en avaient pour eux des médicaments.
Ah ben pour eux, oui, pour les Allemands, oui, mais les internés, enfin les gens qui étaient enfermés, bon, on les soignait pas, plus vite ils crevaient, mieux ça valait. Comme ça, ils n'avaient pas à les nourrir, ils n'avaient pas à les faire, à s'en occuper. Non, on laissait mourir les gens. Bon, parce que ça aurait été très compliqué d'avoir des familles ensemble. Et comment tu veux faire dans une baraque avec 200 personnes dedans ? Comment tu fais avec une famille ?
C'est pour casser le moral un peu, non ? Comment ? C'est pour
casser le moral. Oui, ça a cassé le moral aussi. Non, mais de toute façon, ça n'aurait pas été tenable. Hein, des familles ensemble, des hommes, des femmes, les enfants, tout le monde ensemble dans une baraque, c'était pas gérable. Ça. On pouvait pas, ils pouvaient pas faire ça. Alors, on était séparés, mais... On s'en rendait même pas compte à l'arrivée, mais qu'on n'allait plus se revoir. C'était... Mais ça aussi, c'est une chose qui est épouvantable. Quand tu penses, tu sais que... Je sais pas, moi je savais que ma mère, elle était 1 kilomètre plus loin, enfermée dans un autre truc, et moi j'étais avec mon père, puis dans un autre coin, il y avait un grand-père et une grand-mère, et puis on savait qu'on n'allait plus jamais se revoir. Hein.
Pourquoi Hitler, il a voulu que les gens soient racistes ?
Parce que ça faisait partie de... Bon, sa doctrine, sa théorie, elle était de dire que le peuple allemand était un peuple supérieur, ils étaient mieux que tous les autres, ils appelaient ça les Aryens. Alors que ça soit des gens qui étaient ou noirs ou bruns ou jaunes, peu importe, ça ne valait pas les Allemands. Les Allemands, eux, ils devaient dominer le monde. C'était ça son truc. Alors il avait des idées comme ça, toutes qu'il a inventées. Hein. Par exemple, les Juifs, il disait « c'est une race inférieure ». On ne sait pas pourquoi. Il a dit la même chose des Gitans. Écoute, dans les camps où j'ai été, il y avait quand même des milliers et des milliers de Gitans qu'on avait arrêtés sous le même prétexte, hein, parce qu'ils étaient une race inférieure. Et on les a arrêtés, on en a tué 500 000. Il y a des, bon, les Juifs étaient les plus nombreux, c'est vrai, mais il n'y avait pas que les Juifs. Oui. Oui. Allez, à vous.
Combien de temps a duré mon voyage
pour aller dans le camp?
Ah, je sais pas trop. Oh, ça devait être court, hein, parce que Paris, Tours, c'est pas très loin. Il y a peut-être 300-400 km.
Oui, mais à l'époque, les transports...
Ben, je crois que non, parce que moi, quand j'ai pris le train avec ma mère, c'était un train régulier, c'était pour aller à Béziers, donc... et on a été arrêté à la ligne de démarcation. On a été dénoncé d'ailleurs, comme juifs. Oui. Et c'était... Oui, on a été dénoncé.
Oh, ça a dû prendre quelques heures, je suppose.
C'est ça.
Ça, c'est une question terrible. Alors, laisse-moi réfléchir que je t'explique. Moi, j'ai été élevé dans la religion juive. C'est une religion, voilà, comme une autre, très ancienne. J'étais élevé là-dedans. Mes parents, tout ça, pratiquaient cette religion. J'ai appris, pendant la guerre encore, je peux te le dire, au mois de janvier 1943, par des voies très, très, très compliquées, ça nous mène trop loin pour expliquer ça, j'ai appris qu'on avait tué mes parents. Je ne sais pas, je ne savais pas comment, on ne m'a pas parlé ni de chambre à gaz ni de rien. Mais je savais, j'ai appris, que je ne reverrai plus mes parents qu'ils étaient morts. Je le savais. Ça, chez moi, ça a déclenché une révolte dans mon cœur. Je comprenais... Écoute, j'avais pas tout à fait 15 ans. Hein. Dans ma tête, dans mon cœur, je ne pouvais pas comprendre. Je n'ai pas pu comprendre qu'il y avait... Bon, on peut appeler ça Dieu ou une justice ou n'importe. Hein, peu importe comment on l'appelle. Hein, qu'il y avait comme ça une volonté supérieure à un être de bonté, de justice... qui laissait arriver des choses pareilles, qu'on assassine mes parents qui n'avaient jamais fait de mal à une mouche. C'était les meilleures personnes que j'ai connues. Pourquoi on les a tués? Parce qu'ils étaient juifs. Moi, je ne pouvais pas comprendre. Le résultat, je fais court, hein, le résultat de tout ça, au bout de quelques temps, je n'étais plus capable de croire en quoi que ce soit, en une justice supérieure, parce que les êtres humains, bon, ben, ils ne sont pas comme ça. Alors, si tu veux, bien qu'ayant été élevé dans une religion monothéiste, etc., où je connaissais tout, je sais tout, si tu veux, c'est pas un terrain inconnu pour moi. Mais j'ai tout abandonné ça, j'ai laissé tomber ça, et ça ne m'a plus posé de problème ultérieurement. Moi, je crois en ce que je fais, c'est ce que je suis capable de faire. J'ai une éthique, c'est-à-dire une morale, hein, une morale. Qui est, allez, comment je peux dire ça, la morale occidentale de nous tous. Hein, je sais ce qu'est le bien et le mal. Mais je ne suis plus quelqu'un de croyant, de religieux. Je ne pratique plus aucune religion. Parce que j'ai été révolté que ça puisse arriver qu'on tue mes parents comme ça pour rien. Simplement parce qu'ils étaient juifs. Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends encore pas aujourd'hui. Oui ? Non, j'ai pas entendu. Ah non, mais attends, Hitler, il n'assassinait pas des gens pour la religion. Hitler, il avait une théorie très différente. La religion, il s'en foutait, lui. Hein. Et c'était la race. Bon, c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein. C'est une invention. Hein. Et c'était un truc des nazis. Hein. Mais la religion, tu sais, il a énoncé des règles. Par exemple, si tu avais un grand-parent juif, parce qu'il y a des mariages mixtes, hein. Un grand-parent juif, t'étais juif, on te tuait. Bon, c'est des trucs complètement arbitraires, ça n'a aucun sens. Hein. C'est des trucs complètement idiots. Mais la religion, c'était, contrairement à ce qu'on croit, Hitler, il tuait pas des gens pour des... Mais Hitler était très mal avec l'Église catholique, hein, ou avec les protestants. Il y a des pasteurs protestants qui ont été assassinés, beaucoup, hein, parce que ça lui faisait de l'ombre. L'influence de l'Église catholique ou protestante dans les populations, lui, ça lui faisait de l'ombre, hein, ça diminuait sa puissance. Alors, c'était pas... Bon, Hitler, c'était pas un problème de religion.
Est-ce qu'il a voulu...
Mais je vais te dire, en Allemagne à l'époque, je n'ai jamais rencontré les musulmans. Il y en avait très peu, il n'y en avait pas. Tu sais, la migration des gens, les gens qui se déplacent, etc. Bon, il y avait. Ça n'existait pas comme aujourd'hui. D'abord parce que les transports, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Tu sais, pour venir d'Algérie en France, c'est pas un problème, hein. Il y a des bateaux tous les jours, c'est pas un problème. Ça n'existait pas. Et moi, je n'ai jamais vu, quand j'étais enfant, en Allemagne, je n'ai jamais croisé aucun musulman, ni d'Afrique du Nord ou d'ailleurs. Je n'avais jamais vu, d'ailleurs, non plus de noirs quand j'étais enfant. Il n'y en avait pas, tellement peu, moi, j'en ai pas vu. Et c'est quand je suis arrivé en France, après la guerre. Bon, mais il y avait des départements français d'outre-mer. Ben bien sûr que j'ai côtoyé des tas de gens, des voisins, etc. Pour moi, c'était nouveau. Je ne savais pas. Alors, on ne peut pas dire qu'Hitler ait persécuté des Noirs ou des musulmans, parce qu'il n'y en avait pas en Allemagne. Il n'y avait personne, là. Je veux dire, ce n'était pas significatif, il n'y en avait pas assez. Hein. Le peu qu'il pouvait y avoir... Bon.
En fait, la guerre, ça vous a beau le craindre.
Ah ben ça, on peut le dire, oui. Si, c'est une... Une façon, bah, tu sais, cette guerre qui a duré quand même 5 ans, hein, ça a été l'événement le plus important de toute cette époque, hein, et ça a façonné nos vies. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre, enfin, s'il n'y avait pas eu les nazis, la guerre et l'occupation des pays, bah, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Alors, ça, moi, c'est tout, ma jeunesse, mon enfance, ma jeunesse, c'est ça, hein, c'est les nazis.
Est-ce que Hitler était juif ?
Oh, mais non ! Où c'est que t'as été prendre un truc pareil ? Ah, mais non !
Déjà, la moitié de France, pourquoi ils n'ont pas direct ? Qui les a fait arrêter ?
Ben, tu sais, je vais te dire, il faut beaucoup d'hommes pour occuper un pays. Il faut être partout. Mais Hitler avait des... Il faisait la guerre aussi en Russie. Il y avait un autre front. Il y en avait dans les pays scandinaves où il se battait. Il était partout. Hein. Il a voulu prendre toute l'Europe. Mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors, au commencement, ils n'ont occupé que la moitié de la France parce qu'ils ont instauré, enfin, ils ont laissé le gouvernement de Vichy, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dirigeait le sud de la France. Mais bon, les ordres, ils venaient quand même de Berlin. Hein. Alors, ils n'avaient pas besoin d'autant d'hommes. Il n'y avait pas d'Allemands. Bon, par exemple, moi, dans les deux camps où j'étais, dans le sud de la France, j'ai jamais vu un Allemand. C'était la police du gouvernement de Vichy. Qui nous gardait. Les Français.
Les gendarmes.
Oui, les gendarmes. Non, il y avait la milice, il y avait surtout. Oui. Non, pas, ils embauchaient des gardiens. Hein.
Mais une fois, ils ont tout pris après.
Ah ben, parce que, je vais te dire, pour la guerre, tu as besoin de beaucoup de matériel. C'est-à-dire, il faut de la nourriture, il faut des matières premières pour l'industrie, tu sais, le fer, le bois, tout ça. Bon, en Allemagne, ils avaient déjà utilisé la plupart des choses dont ils disposaient. Hein. Alors il fallait trouver ailleurs. Ben, où ils trouvent ça? Dans les pays qu'ils occupent. Hein, les pays qu'ils occupent, alors ils prenaient. Alors c'est pour ça que les Français, ils n'avaient plus grand-chose à manger non plus. Il y avait des cartes de rationnement. On ne pouvait pas acheter n'importe quoi. Alors, bon, les premiers à souffrir, c'est ceux qui étaient enfermés dans les prisons et dans les camps, bien sûr. Hein, mais les Français eux-mêmes n'avaient plus grand-chose à manger.
Vous savez pourquoi Hitler, ils sont pas aux Juifs et pas aux chrétiens
Attends, je viens de te le dire. D'abord, pour Hitler, ce n'était pas une question de religion. Hitler partait de l'idée que la race allemande, c'est un mot, c'est idiot, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de race allemande. Hein. C'est des Occidentaux, point. Hein. Mais pour lui, c'était la race supérieure. Il fallait être blond, avoir les yeux bleus. Alors là, tu étais supérieur. Hein. Et les autres, il fallait les dominer, les écraser, etc. Bon, ça, c'était la théorie d'Hitler, mais c'était la théorie d'un fou. Hitler, d'abord, il n'était pas allemand. Il était autrichien. Bon, l'Allemagne avait pris l'Autriche, l'avait annexé, mais il était autrichien. Maintenant, l'Autriche, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais l'Autriche, sous les Habsbourg, enfin, sur l'ancien régime, hein, c'était un véritable un conglomérat, comment je peux dire ça simplement. Il y avait des peuples de tout. Regarde l'ancienne Yougoslavie. Tu trouvais toutes sortes de peuples dans ce pays. On en a fait un pays, mais il y avait des gens d'origine très différente. Alors Hitler, moi, je ne connais pas l'histoire de... On ne connaît pas ses grands-parents, arrière-grands-parents, on n'en sait rien. Va savoir... Il y avait peut-être, des, je ne sais pas moi, des Italiens dans sa famille, ou des Yougoslaves, on n'en sait rien. Bon, il était brun, bon, d'accord. C'est pour ça que je dis sa théorie de raciste, c'est le truc le plus idiot qu'on puisse imaginer, n'en déplaise à M. Le Pen. Bon, d'une part, il voulait dominer le monde, et d'autre part, il avait impérativement besoin, comme je le dis, des matières premières, que ce soit pour l'agriculture, la nourriture, hein, et le bois, le fer, le cuivre pour l'industrie, il en avait besoin. Puisqu'il avait une industrie d'armement pour faire la guerre, ben, il fallait trouver des matières premières. Hein, ben, ça, il allait les chercher là où ils étaient, c'est-à-dire chez les autres.
Ben, pourquoi Hitler avait inventé le signe?
Il a
inventé le signe.
La croix gammée. Ah, la croix gammée. Oh, tu sais, c'est une histoire. La croix gammée, on pense que c'est un signe qui venait à l'origine de l'Inde. Mais bon, ça s'appelle la swastika. Bon, il a pris ça pour, comme il aurait pu choisir autre chose.
Oui, il
n'y
a aucun sens derrière.
Comment?
Il
n'y
a aucun sens derrière.
Non. Vous savez, y a les théoriciens du nazisme ont écrit des tas de choses, type comme Rosenberg, etc. Ils ont écrit des tas de trucs, mais c'est tellement... Quand si on met le nez là-dedans, on se prend la tête. On peut pas imaginer que des gens ont pu avaler ces trucs. Hein. On peut pas le croire. Hein. C'est très difficile encore aujourd'hui.
C'était qui comme président?
Où?
Mais
où?
En Allemagne. Je
ne
sais pas, la France.
Mais c'était pas... Ah non, mais en France, il y a eu un gouvernement, il y avait la Troisième République, hein, la Quatrième République après, mais il y avait des gouvernements, la France, c'est un pays démocratique. Mais pendant les années de guerre, il y avait le Charles Pétain, c'est le gouvernement de Vichy qui est venu là parce que c'est un fait de la guerre, hein, mais c'est tout. En Allemagne, il y avait un chancelier qui s'appelait Hindenburg avant Hitler, mais il était vieux et faible, gros, il ne faisait pas le poids, et en 1933, il a nommé Hitler chancelier, et puis voilà.
Après la guerre, parce que c'est
qui
Pétain.
Non, en fait, il est mort, il a été enfermé. Il était dans l'île-dieu, il était enfermé dans une île, et on n'a pas voulu le tuer, mais il est mort. Il était vieux. Oui. Oui.
Est-ce que vous êtes retourné après dans votre région?
Oui.
Vous avez mis du temps?
Oui et non. Je vais essayer de vous répondre pour que tout le monde comprenne, là. Parmi les métiers que j'ai exercés pour gagner ma vie, le plus intéressant et que je fais depuis longtemps et qui m'a donné aussi le plus de satisfaction, j'ai été journaliste. Alors, je vais vous dire, c'est un peu rigolo, ça. J'ai gagné ma vie. Vous savez ce que c'est qu'un journaliste, oui? Quelqu'un qui écrit dans un journal. J'ai gagné ma vie pendant 20 ans à écrire dans une langue que je n'ai jamais apprise. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école en France. J'ai pas eu le temps. J'étais enfermé, après j'étais caché, et puis après il fallait que je travaille pour gagner ma vie. Et en fait, vous qui êtes des écoliers, je ne connais pas une seule règle de grammaire en français. Parce que j'ai pas appris, je sais pas. Hein? Mais par contre, j'écris. Vous savez, j'écris beaucoup sur un ordinateur et un correcteur d'orthographe. Je ne m'en sers jamais. Quelquefois, j'ai besoin de vérifier une double consonne, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais par contre, je peux m'expliquer, j'ai une excellente mémoire. J'ai une bonne oreille et j'ai une excellente mémoire. Donc, j'ai dans mon enfance et dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu. Et je lis aussi bien dans les trois langues que je parle, c'est-à-dire l'anglais, le français, l'allemand, l'un comme l'autre, ça ne fait aucune différence pour moi. Je lis beaucoup. Non seulement je lis, mais je retiens. J'ai un disque dur là-dedans et puis j'imprime. Hein. Et après, je clique dessus et puis ça revient. Ouais, ouais, comme un ordinateur, ça marche comme ça. Enfin, quelqu'un m'a expliqué c'est comme ça. En tant que journaliste, et à cause de mes connaissances linguistiques, évidemment, à chaque fois qu'il se passait un truc en Allemagne, on m'a dit, c'est toi qui vas. Parce que mon patron, il est très content, il a envoyé un seul bonhomme, il n'a pas besoin d'interprète. En plus, j'étais devenu photographe, parce que j'ai appris la photographie comme ça, sur le tas. Hein. Alors, il y avait un photographe, il n'avait pas besoin d'interprète, il avait un gars qui écrivait. Alors, c'était très, très, il était très content, mon patron. Alors, je suis retourné en Allemagne. Attendez, laissez-moi expliquer. Hein. Je suis retourné en Allemagne relativement tôt après la guerre, c'est-à-dire 5 ans après la fin de la guerre.
Oui, mais c'était pas un choix, dans ce cas,
c'était parce qu'on nous y a envoyé. Ah, on m'y a envoyé. Ah oui, moi, bien sûr. Bon, j'avais pas de raison. Il n'y avait plus personne là-bas, il n'y avait rien. Puis l'Allemagne était un champ de ruines. Hein. Mais j'y suis allé, et comme ma ville natale, elle est sur le bord du Rhin, bah, obligatoirement, j'y passais. Hein, je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Je ne vous cache pas que les premiers voyages en Allemagne, ça a été très, très difficile. Hein. Bon, j'ai vu un champ de ruines, ça m'était égal, parce que bon, d'après ce qu'il m'avait fait, je n'allais pas pleurer. Hein. Par contre, chaque fois que je rencontrais un Allemand, et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient plus âgés que moi. Je parle des années 50. Hein. Il y avait beaucoup de gens plus âgés que moi qui vivaient encore. Je ne pouvais pas savoir, est-ce que le type à qui j'avais affaire, il n'avait pas été nazi? Est-ce qu'il n'avait pas tué mes parents, peut-être? Est-ce qu'il n'avait pas pris mon appartement ou ma maison et mes meubles là-bas? Il n'était pas là, je ne pouvais pas le savoir. Bon, j'exagère, parce que, bon, mais en fait, c'était ça. Hein. Nous étions tous, ceux qui ont eu à retourner là-bas, très mal à l'aise pendant un certain temps. Maintenant, pour ceux qui comprennent, je voudrais ajouter un truc qui me tient aussi à cœur. L'Allemagne aujourd'hui, la République fédérale allemande, n'a rigoureusement rien à voir, ni sur le plan politique, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, avec l'Allemagne que j'ai connue et qui m'a chassé. Rien. Hein? Les gens à qui j'ai affaire aujourd'hui, ben, ils n'étaient pas nés quand il y avait Hitler. Et moi, je défends bec et ongles un point de vue que je m'en vais défendre. Dans 2 jours, je suis invité au Parlement à Berlin. Je m'en vais après-demain matin à Berlin. Je veux leur dire qu'on ne peut en aucun cas rendre responsables des enfants de votre âge pour quelque chose qui est arrivé du temps de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents bientôt. Hein. C'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas nés peuvent pas être responsables pour quelque chose que les aïeux ont ou fait ou laissé faire. On ne peut pas. Il faut que ça s'arrête un jour. On ne peut pas cultiver de la haine. J'ai compris, moi j'ai vu de mes yeux vus, que sur la haine, on ne peut rien construire. Est-ce que, je ne sais pas si vous me suivez, si vous haïssez quelqu'un, vous ne pouvez rien faire de positif avec lui, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête, et il faut qu'on doit tous travailler ensemble pour que des événements comme ceux que j'ai relatés, que j'ai raconté aujourd'hui, pour que ça n'arrive plus.
Pourquoi vous
ne vous présentez pas à la télé? Vous présentez pas. Attends. Moi, je cherche pas du tout la gloire ou la célébrité, ça, c'est pas mon truc. Hein. Maintenant, je vais te dire, il existe un film de FR3 qui a été fait sur mon parcours. Ça s'appelle Itinéraire d'un enfant visieux. Bon, mais ça a déjà quelques années maintenant. Ça a été fait pour ces Barbie. Hein, et ça raconte mon histoire. Il y a des films en Allemagne, il y en a même aux États-Unis, et il y a des films qui ont été faits où on m'a demandé. Là, je viens de dire qu'après demain matin, je pars à Berlin. Le Parlement allemand qui m'a invité, ils m'ont demandé de consacrer une journée à l'enregistrement d'un film en vidéo, hein, qu'ils vont enregistrer, pour que j'explique mon point de vue sur ce que je viens de faire à la minute, et que j'explique mes motivations, pourquoi je fais ça. Vous savez, moi j'ai bientôt 78 ans, ben, je me fatigue beaucoup à courir à travers le monde pour parler à des jeunes. C'est quelquefois fatigant. Pour être là à l'heure ce matin, je suis même venu en moto, vous voyez. Même sous la pluie, peu importe. Hein. Mais je le fais parce que je pense que nous, on est les derniers à pouvoir le faire. Après nous, il n'y a plus personne. Il n'y aura plus de témoins. Tout ce que j'en pense. Bah écoute, c'est ce que je viens de vous raconter. Hein. Je pense que c'était un malheur complet. J'ai perdu tout le monde, j'ai perdu ma maison, ma famille, tout le monde. Hein. Je suis resté tout seul. Hein, j'ai été obligé de me débrouiller. Et l'important pour moi, ce que j'en pense, l'important, c'est de faire en sorte à ce que vous, les jeunes, vous compreniez ce qui s'est passé et que ça ne peut plus, ça ne doit plus arriver.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Nous allons avec à la technique Flo Descailloux qui nous accompagne pour l'accompagnement musical et sonore. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Sauva pour Ils sont elles, histoire extraordinaire d'écrivaines qui ont choisi des noms d'hommes. Ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Catherine Sauva, bonjour.
Bonjour.
On s'était vu il y a bien longtemps, il y a 2 ans.
Oh, je sais. C'est... voilà, exactement.
Rilke.
Oui.
Et aujourd'hui, donc, vous publiez un livre, une étude assez passionnante sur. J'irai, il y a plusieurs lectures dans votre livre. À la fois, on peut le lire comme une histoire de la condition de la femme écrivain, condition. Mm-hmm. Condition aussi de la condition féminine.
Oui, oui, absolument.
Et aussi la place de la féminité dans la littérature, de la revendication de la féminité, et aussi sur la notion de genre, tout simplement. Il y a beaucoup de lectures. Hein.
Bah, ça me fait plaisir que vous ayez remarqué ça, parce que c'est exactement. Enfin, c'était mon intention. Donc,
c'était. D'accès un peu pluriel, comme ça.
Oui, oui, c'est ça, parce que c'était pas sinon. Enfin, l'histoire de ces pseudonymes, ça pourrait paraître anecdotique, si ce n'est que ça rassemble effectivement beaucoup de thématiques propres à la difficulté des femmes d'avoir, à un moment donné, osé porter leur vocation d'écrivaine.
Alors, il y a 43 femmes qui ont pris des noms d'hommes. Enfin, je ne sais pas si c'est 43 ou 44. Hein. Grosso modo, j'en ai compté 43. 43 femmes écrivains, hein, romancières, mm-hmm. qui ont pris des noms d'hommes. À la fin, il y a 3 hommes qui ont pris des pseudos de femmes. Ça, c'est rigolo. Et puis, ce que j'aime bien, dans chaque chapitre, il y a un alias. Alors, il y a un alias, soit masculin, Ou un alias anonyme. Ça, j'ai bien aussi aimé ce mode de lecture-là.
Oui, oui, parce que alors, le choix d'un pseudonyme masculin, c'est la majorité des histoires que j'ai racontées. Mais au début, parce que je commence en fait au XVIIe siècle, il y a un certain nombre de femmes qui ne veulent pas apparaître, qui ne veulent pas signer. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Madame de Lafayette, qui a signé, qui n'a pas voulu apparaître. Et en écrivant La Princesse de Clèves, elle est restée très mystérieuse. Alors, pendant longtemps, c'est resté un secret. Puis après, on sait que c'est absolument elle. Il n'y a absolument aucun doute sur la maternité de son œuvre. Mais elle n'a pas voulu, se montrer. C'est le cas plus tard un peu on le sait moins, de Jane Austen. Mmh. C'est le cas aussi de Mary Shelley. Voilà, d'un certain nombre de ces femmes pour qui l'histoire de le signé de son nom correspondait à quelque chose dans tous les cas de transgressif et certainement qu'elle n'était pas prête à affronter, d'abord au vu de l'époque aussi et puis voilà, au vu de d'autres raisons sociales.
Alors c'est vrai qu'il y a, Madame de Lafayette, on n'avait pas dit que c'était La Rochefoucauld qui avait écrit La Princesse de Clèves.
On a tout dit. Ce genre de, on pourrait presque dire de calomnie, enfin voilà, ouais. N'allons pas si loin, ce genre de rumeur est assez typique parce qu'on ne peut déjà...